S'il y a des questions sur ce que nous avons vu sur les causes, c'est très important, hein, d'essayer de saisir le premier moment où les causes apparaissent dans leur diversité analogique, dans ce regard spéculatif, philosophique. Avant, elles étaient saisies dans une philosophie pratique. Or, dans une philosophie pratique, les causalités demeurent liées toujours à l'aspect subjectif. Il y a quelque chose d'affectif. Et donc, les causalités ne peuvent pas apparaître dans toute leur pureté. Mais la causalité finale au niveau éthique, par exemple, ben oui, c'est merveilleux, mais c'est dans l'amour. Inséparablement lié à l'amour. La causalité exemplaire, donc la cause formelle, qui apparaît dans la causalité exemplaire pour l'artiste, est inséparablement liée à l'intentionnalité. C'est très curieux de voir que dans l'ordre pratique, les causalités sont enveloppées de l'intentionnalité. Et donc, cet aspect subjectif demeure, qui fait que on ne peut pas saisir en pleine rigueur leur diversité analogique. L'intentionnalité est immanente. L'immanence de l'amour, l'immanence de l'aïdos artistique, l'immanence du bien commun au point de vue politique. Et donc, c'est toujours lié au conditionnement humain par le point de vue de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est le vécu, donc c'est toujours le conditionnement humain. Et c'est ce conditionnement humain qui est premier, et qui fait que c'est à l'intérieur de ce conditionnement humain que l'aspect objectif apparaît. Il y a une certaine objectivité, puisque c'est quand même une analyse philosophique. Mais c'est lié à cette intentionnalité. Ce qui est remarquable dans la connaissance philosophie spéculative, c'est ce dépassement de l'intentionnalité pour saisir la cause en elle-même, pour saisir son caractère tout à fait propre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on saisit vraiment cette diversité analogique. Et ce premier moment, c'est en philosophie de la nature. Et vous voyez, c'est quand même très curieux, c'est que la première causalité qu'on saisit en philosophie de la nature, c'est la matière. C'est très étonnant, ça. Alors qu'en éthique, ou en philosophie de l'art, c'est la fin et la causalité exemplaire. C'est bien ce qu'on a vu, du reste, hein, quand Aristote montre les rapports entre l'aspect artistique et l'aspect de la saisie de la nature, il montre bien que dans l'art, la causalité exemplaire est première. Et nous gardons presque toujours, hein, parce que notre réalisme n'est pas assez fort, nous gardons presque toujours cet ordre génétique. Nous avons une peine énorme d'entrer dans un ordre différent au plan spéculatif. Vous voyez, d'une façon courante, lisez Gilson. Et vous voyez tout de suite que pour lui, distinction forme et matière. Et la distinction forme et matière est première. Et pour lui-même, il l'universalise. C'est la grande distinction de toute la philosophie aristotélicienne. Non. L'eidos et la matière sont saisis dans l'œuvre d'art. La matière et la forme sont saisis en philosophie de la nature. L'ordre est inverse. C'est très étonnant, du reste. Qu'au plan des causalités, au niveau spéculatif, la matière est première. Pourquoi la matière est première ? parce que elle est la plus immanente. Et la forme vient déterminer cette matière de l'intérieur, pas de l'extérieur. Dans l'œuvre d'art, la forme vient de l'extérieur. Dans la nature, la forme vient de l'intérieur. Et la matière demeure toujours première. Alors vous voyez, cette chose très curieuse quand il s'agira du vivant, et surtout de l'homme, comme l'âme vient de l'extérieur. La très grosse difficulté de ne pas saisir le rapport âme-corps à la manière d'une œuvre d'art. Comme Platon. Platon saisit le rapport âme et corps à la manière d'une œuvre d'art. Alors on comprend la position platonicienne. Vous voyez, je crois que c'est ça qu'on devrait essayer de saisir avec beaucoup d'attention, parce que c'est quand même le premier moment de l'analyse philosophique. La division de l'œuvre. La division de la nature, matière et forme. La division de l'âme et du corps. Et vous voyez, vous dites ça spontanément. Hein. Alors il faut essayer de le comprendre de manière critique. Vous avez eidos et matière, philosophie de l'art. Vous avez nature, matière, nature, forme, philosophie de la matière. Vous avez âme et corps. Vous ne dites pas corps et âme. Vous dites âme et corps, philosophie du vivant. Et vous avez l'analogue de l'âme, ousia. Philosophie première. Et c'est là la souplesse de l'analogie. Hein. Et c'est là l'intérêt de voir comment on ne tombe pas dans un système. Prendre ceci et dire toute la philosophie aristotélicienne, c'est la distinction de l'uniformisme de la forme et de la matière. Vous voyez, c'est oublier ce qu'il y a de propre à la philosophie aristotélicienne. C'est de voir que les divisions des réalités que nous saisissons, c'est-à-dire l'analyse, est chaque fois différente. On ne peut pas transposer une division d'un domaine à un autre domaine, l'appliquer. C'est ce que fera la scolastique décadente. Alors on réintroduit une sorte d'uniformité. Et on ne saisit plus ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'intelligence qui saisit une division, c'est-à-dire une cause, un principe, et à partir de là, elle saisit l'autre. Et elle saisit chaque fois différemment. Je crois que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre ici, dans ce passage si important. Et la manière dont Aristote le dit, hein, la manière dont il saisit la matière comme l'immanence la plus forte. C'est pas la forme la plus grande immanence, parce que la forme est double. Morphé, eidos. Vous voyez, cette espèce de complémentarité ou de division qu'Aristote donne toujours, donne morphé, eidos. Morphé, forme immanente, à partir de la matière. Eidos, causalité exemplaire, extrinsèque, transcendante, par rapport à la matière. L'eidos peut exister sans la matière, la morphée ne peut pas exister sans la matière. Alors on voit bien, l'immanence proprement dite est saisie du côté de la matière. Je crois ça très important à comprendre, hein, parce que ça fait comprendre comment, quand vous restez dans l'immanence du vécu, vous matérialisez tout. poids de l'immanence de la matière. Et vous voyez que dans le vivant, l'âme reprend sa primauté. Vous avez donc un lien très particulier entre les deux. L'âme vient de l'extérieur. Elle est causée de l'extérieur. L'âme humaine, hein, l'âme spirituelle. Et le corps, par le fait même, reçoit cette âme qui est eidos, divine. Vous voyez, il dit Platon, l'eidos divine, l'âme, qui vient informer le corps. Et ça fait comprendre des quantités de choses. Platon et Aristote, hein. Ces deux analogies qui se retombent. Et alors la philosophie de la nature, au contraire, la primauté de la matière et l'immanence de la matière. La forme n'est pas purement immanente, comme forme, puisque l'eidos est causalité exemplaire. Oui, il y en a quelque chose d'extrêmement important, je crois, à saisir. Puis vous avez la causalité efficiente qui est extrinsèque et la causalité finale qui est transcendante. Au fond, vous n'avez qu'une seule causalité transcendante, c'est la fin. C'est pour ça qu'elle est cause des causes. Et au fond, la fin, spéculativement, vous la saisissez toujours à partir de la forme. Vous ne pouvez pas saisir la fin en elle-même. Alors c'est peut-être ça qui serait très intéressant, justement, à bien comprendre. Le pourquoi de cette erreur de Don Scott, causalité exemplaire, causalité finale, métaphorique. Pourquoi on arrive si facilement à considérer la causalité finale comme métaphorique? Et vous voyez tous les dégâts que ça fait. Ça, c'est Don Scott. Et ça s'est introduit dans le thomisme, même Jean de Saint-Thomas. Jean de Saint-Thomas dit que la causalité finale a quelque chose de métaphorique. Quelque chose de métaphorique. Elle est réelle, mais elle a quelque chose de métaphorique. Pourquoi? Parce que vous la saisissez par la forme. Et alors, parce que vous la saisissez par la forme, il y a comme, j'allais dire, comprenez bien, comme une double induction. Très curieux. Vous la saisissez par l'eidos pour l'œuvre, vous la saisissez par la substance pour la finale, pour l'acte. Toujours. Quelque chose de très curieux. Que la causalité finale se cache à cause de sa transcendance. Le transcendant se cache toujours. Quand on se manifeste de trop, ça veut dire qu'on n'est pas très transcendant. Dites ça pour les élections. Quand on se manifeste de trop, ça veut dire qu'on n'est pas très transcendant. Le transcendant n'a pas besoin de se manifester. Oui. C'est pour ça qu'on veut jouer au transcendant en se cachant. C'est très étonnant ces choses-là. Pour saisir la différence. Immanence, extrinsèque, transcendant. Il y a trois qualifications. L'immanence, c'est la causalité matérielle. Exou. Le exou d'Aristote est très fort. C'est de là. C'est de là que ça vient. Là, vous comprenez, ex nihilo. Le ex nihilo, causalité matérielle. Le propre du créateur, il n'a pas besoin de matière. Quoi? Il la cause. Je suis celui qui cause la matière. Voilà le propre du Créateur. Personne d'autre ne peut dire je suis celui qui cause la matière. Bon. Et doutcherer des formes, éduire des formes à partir de la matière. Alors, la matière, vous voyez, cache aussi. La transcendance est cachée. Et la matière cache. Ça, c'est sûr. Parce que c'est le problème de la causalité matérielle de retenir en fonction de son immanence. La causalité matérielle, elle retient toujours. Elle n'aime pas qu'on lui échappe. C'est pour ça que la matière est si tyrannique. Elle maintient tout le temps. La forme réclame de devenir de Morphée Eidos. Elle ne l'est pas entièrement. L'efficience est extrinsèque et la finalité transcendante. Alors je crois qu'il faut souvent revenir à ce petit texte qu'on avait vu la dernière fois et le revenir en essayant de le lire en grec, dans la mesure où on connaît suffisamment le grec. Parce que c'est tellement fort comme précision et comprendre l'ordre qu'Aristote donne. Parce que c'est par l'ordre de la découverte des diverses causalités qu'on comprend la structure de chaque partie de la philosophie. La structure de l'éthique n'est pas la même que celle de la philosophie de l'art. La structure de la philosophie de la matière n'est pas la même que celle de l'éthique. Et la structure de la philosophie première n'est pas la même. Et la structure de chacune de ces parties de la philosophie est donnée en fonction de la découverte des causes. Et donc c'est l'ordre que nous découvrons dans les diverses causes qui nous permet de comprendre non pas la méthode philosophique, mais l'ordre et l'organisation de la philosophie. Mais toutes les causes dont nous parlons maintenant tombent en quatre classes qui sont les plus claires. La façon dont les éléments des syllabes, la matière, causent des choses que l'on apprête, la matière de ce que l'on apprête. Le feu et les réalités de cette sorte causent des corps. Les parties causent du tout et des thèses de base de la conclusion. La façon dont est cause, ce à partir de quoi. Donc vous retrouvez le point de vue to ex ou aisia esti. Donc c'est le ex ou qu'il faut bien comprendre, hein, à partir de quoi. Dans l'immanence. Alors remarquez bien la diversité que donne Aristote ici de la causalité matérielle. La causalité matérielle implique donc une très grande diversité. Alors il faudrait voir. Les stoikeia, donc les éléments, les syllabes, la matière des choses que l'on fait, le feu pour trouver les éléments de la réalité, les parties du tout, les thèses de base, le fondement de la conclusion. Alors vous voyez comment il est facile de confondre au niveau de la matière le tiesti et le pos. Les éléments, c'est par rapport au exou, c'est déjà un pos. Le fondement, c'est un pos. Et très souvent, au niveau de la matière, on n'arrive pas à distinguer le pos et le tiesti. Parce que le tiesti est tellement faible. C'est vrai, l'intelligibilité de la matière est tellement faible. Alors là, ce serait intéressant de voir toute la différence avec Suarez et Thomas d'Aquin. Suarez n'a pas su distinguer le tiesti de la matière et le pos. Puisque Suarez ne comprend pas que la matière est pure puissance. Et pour Suarez, la matière implique toujours une forme, une virtualité. Donc, ça reste le pose, l'élément. C'est intéressant, parce que ça fausse tout. Forcément, le manque de distinction au niveau de la cause matérielle, puisqu'elle est immanente, fausse tout. C'est ce qu'il y a de plus difficile à saisir, d'une certaine manière. Hein. C'est là où la philosophie de la nature a quelque chose de très unique. Parce qu'il n'y a que dans la philosophie de la matière où vous saisissez vraiment cette cause, le to exo. Aisia esti. De ces réalités ainsi analysées d'ailleurs, certaines le sont, les unes comme le sujet, ainsi par exemple les parties, les autres comme l'être qui, de l'être considéré, demeure tel être, et comme le tout, la synthèse et la forme eidétique. Commode, hein, bien comprendre. De ces réalités ainsi analysées d'ailleurs, certaines, les unes, comme le sujet, par exemple les parties. Donc vous êtes du côté matériel, le sujet, ce qui reçoit les autres comme l'être qui, de l'être, demeure tel être, comme le tout. La synthèse et la forme eidétique. Ces trois aspects qui sont très curieux, le tout, la synthèse et la forme eidétique. La semence, le médecin, le décideur et de manière générale, celui qui fait. Tout cela sont ceux d'où provient le commencement du changement, du repos et du mouvement. Donc, causes efficientes. Les causes ultimes, enfin, ça c'est les, comme la fin et le bien des autres. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Comme la fin et le bien des autres. Os totelos kai ta gaton ton allon. Car ce en vue de quoi tout advient, car le to ou eneka, ce en vue de quoi prétend être le meilleur et la fin des autres. Belsion, Kaitelos, Ton Alon, Etelei Einain. Et qu'il ne soit d'ailleurs posé aucune différence entre dire le bien lui-même ou dire un bien apparent. Diaferoto de Medein, Eipen Agaton Utu et Agaton Phainomenon. Très curieux. Donc, une différence dans le dire. Hein. Le bien lui-même et le bien apparent. Mais le coup de patte à Platon, hein, ça. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il fait une analogie entre le bien apparent et le bien réel, et puis la fin dans la philosophie de la nature ?
Je crois que c'est le dire. Vous voyez ? C'est pas dans la réalité. Et alors, est-ce que nous ne sommes pas là en philosophie de la nature ? Est-ce que la philosophie de la nature peut-elle, elle, distinguer les deux ? Je ne crois pas. Vous voyez, c'est à cause de ça. Ça veut dire qu'Aristote ne distingue pas en éthique le bien apparent et le bien réel. Mais en philosophie de la nature, parce que nous partons de la matière. Enfin, c'est dans ce sens-là que je vous disais, la fin est transcendante. Il est toujours caché. Et donc l'apparence de la fin et le bien apparent, le bien qui apparaît et le bien en soi, on ne peut pas distinguer en philosophie de la nature. Ouais, comme c'est curieux, hein. Et toutes les causes dont nous parlons maintenant tombent en quatre classes. Quatre manières, topos, hein, qui sont les plus claires. Alors vous avez la matière, et dans la matière, vous mettez dans le même sac, hein, tout ce qui relève de la matière, tiestiepos. Alors c'est intéressant à noter. Dans la matière, vous avez aussi bien les parties du tout, les thèses de base, les thèses de base, de conclusion. C'est matériel par rapport à la conclusion. C'est extraordinaire. La façon dont des causes se à partir de quoi? Il y a quelque chose de matériel dans les thèses de base, qui sont comme le fondement de la pensée et la mise en lumière de la conclusion, qui est comme quelque chose qui apparaît, qui est la forme. Le tout est la forme de la partie. Et donc la partie, prise en elle-même, elle est matière. Donc il faut mettre très en parallèle, vous voyez, les deux premiers, matière et forme. De ces réalités rationalisées, d'ailleurs, certaines sont les unes comme le sujet, par exemple les parties, les autres comme l'être, alors là c'est la cause formelle. Les autres comme l'être qui, de l'être, demeure tel être. Voilà la forme, tel être. Et comme le tout est forme de la partie, la synthèse et la forme eidétique. Mais comme c'est très curieux, hein, comme là il reprend, j'allais presque dire, on est au niveau du topos. Donc si on est au niveau du topos, on est au niveau de la manière d'être. Et donc on regarde la manière dont se présentent ces causalités. Tandis que l'analyse précédente donnait le tiesti. Et si on le pose. Et c'est intéressant de voir qu'Aristote donne les deux, hein, ce que la scolastique n'a plus du tout donné. J'espère que vous voyez. Je reprends pour que vous voyez bien, que vous y réfléchissiez, hein. Vous avez l'analyse de la cause diesti. On est au niveau de la division. Et puis ici, on est au niveau du topos. Au niveau du topos, on est au niveau de la manière d'exister. Donc, l'analyse va beaucoup moins loin. Suarez. Suarez reste au niveau du topos. Presque toujours. Il n'y a plus d'induction. C'est l'avantage du topos. On n'a plus d'induction. Il faut de la manière d'exister. Ça se présente comme ça. Vous pouvez décrire. Comment décrire la matière? Voilà. Comment décrire la forme? Comment décrire la cause efficiente? Comment décrire la finalité? Topos. Le vécu de la matière, le vécu de la forme, le vécu de l'efficience, le vécu de la fin. Topos. Parce que c'est le vécu, c'est la manière, c'est le topos. Qu'il s'agisse du topos qu'on décrit extérieurement, qu'il s'agisse du topos qu'on porte en soi, c'est le vécu. Alors c'est assez joli ça. C'est joli de voir les quatre manières dont les causalités sont vécues. Très intéressant pour la philosophie contemporaine, vous voyez, qui reste dans le vécu. Et comment on peut retrouver dans le vécu les quatre causalités? Mais vous ne les retrouvez pas à l'état pur, vous les trouvez dans le vécu. Donc, enveloppé du petit, du cocon, de l'intentionnalité, qui enveloppe très bien et qui empêche de saisir les choses dans toute leur rigueur. Alors on a ça, cette chose curieuse, vous voyez, c'est très amusant de voir causalité matérielle, causalité formelle, vous avez partie et tout. Comment concevoir au niveau du vécu, au niveau descriptif, la matière et la forme? C'est intéressant pour l'éducation, pour introduire quelqu'un, la partie et la matière, la partie et le tout, surtout quand il s'agit de la part, c'est facile, on comprend tout de suite la partie et le tout. Un gosse comprend la part, il comprend descriptivement matière et forme. C'est évident qu'on aime mieux le tout que la partie. Les éléments et la synthèse. Et pour comprendre Hegel, par exemple, la synthèse hegélienne, côté de la forme, c'est très intéressant ce petit passage, sous ce point de vue-là. C'est complexe, hein, c'est pas commode à saisir. Mais une fois que vous vous placez du côté descriptif, du côté du topos, donc il faut bien comprendre ce que dit Aristote. C'est l'immanence. En quoi est du côté de l'interrogation et d'autre côté c'est du côté de la découverte. Venez. Du côté de l'interrogation c'est l'immanence. En quoi? En quoi êtes-vous fait? Hein? Causalité matérielle. Bien, non, j'ai mon nez. Vous voyez, il est parti tout de suite. Il est parti des animaux. Est partie de cet animal extrêmement complexe que vous êtes. Le cœur de l'homme est complexe. Venez, les parties des animaux, lisez les parties des animaux d'Aristote. Oui, c'est la matière. C'est le comment de la matière. Et l'étude des analyses de la science biologique étudie ça. En quoi est le vivant? Ex. Vous voyez bien? Non, faut pas. Non, faites attention. Respectez les deux perspectives différentes, l'interrogation et la découverte. Vous voyez, il y a trois perspectives, hein, qu'il faut distinguer bien quand il s'agit des causalités. Trois perspectives. L'interrogation. L'interrogation, ça se place du côté de l'intelligence qui cherche. Du chercheur. Donc, c'est le vécu du chercheur. Vous retrouvez la découverte du ti esti et le point de vue hypos. Alors, vous voyez, il y a deux manières d'exister. L'une à l'intérieur de l'intelligence, l'autre dans la réalité, et le TST. On attaque le TST de deux manières, par le POS de la réalité, par le POS de l'interrogation. Comme ça, vous comprenez mieux le dépassement du TST. Le TST, c'est la découverte de la cause. C'est la découverte du principe. Là, je ne suis pas au niveau du principe. Là, je ne suis pas au niveau du principe. Je suis au niveau de l'interrogation. L'interrogation, c'est le vécu. C'est pour ça que je commence par le vécu. Personnellement, j'ai vraiment découvert ce que c'était que les causes d'Aristote quand j'ai compris la correspondance entre l'interrogation et la découverte. Et une fois qu'on a découvert, on revient au pose et on voit le lien entre les deux. Alors ici, vous pouvez mettre le en quoi. Je veux bien. Mais ici, le ex-ou. Et respectez les deux. Le en quoi. Les parties. En quoi et le tout. Les parties. Vous divisez une tarte. Hein, le tout. En quoi. Les parties. Il y a 15 parties. Et vous avez le tout. Vous voyez. Vous voyez comment la partie peut être considérée comme matière. Alors, la matière exo, la partie en quoi. Il y a deux. Le jeu de l'intelligence qui interroge et qui saisit le tiesti. Le tiesti, il n'est pas dans l'interrogation. Autrement, ils n'auraient pas besoin de chercher. Qu'est-ce qui est dans l'interrogation ? C'est la manière dont je m'approche du tiesti en interrogeant. Le chien de chasse, puisque Platon donne le chien de chasse. Le chien de chasse flaire, il y a du gibier là, il est en arrêt. L'interrogation, c'est votre intelligence en arrêt. Le vécu du tiesti, qui pressent le tiesti. Évidemment, quand je donne des interrogations, j'ai déjà découvert, vous comprenez. Je suis dans une recherche, mais j'expose ensuite comment se fait cette induction. Et vous avez dit, l'interrogation, c'est l'âme de l'induction. S'il n'y a pas l'interrogation, il n'y a pas d'induction. Parce que ça donne l'orientation. Exactement comme pour en science, s'il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de recherche. Quand vous faites une dissertation, quand vous faites une thèse, ben il faut qu'il y ait une hypothèse de recherche. S'il n'y a plus d'hypothèse de recherche, tout d'un coup, à un moment donné, un tunnel. Je ne vois plus rien du tout, plus d'hypothèse de recherche. Quelle est votre hypothèse de recherche dans votre vie religieuse ? Le jour où il n'y a plus d'hypothèse de recherche, il n'y a plus de tension. Mon hypothèse de recherche, c'est que je suis fait pour les béatitudes, pour la vision béatifique. S'il n'y a plus cette hypothèse de recherche, l'arc est étendu, je suis fatigué. Quand il y a l'hypothèse de recherche, je suis tendu. Transposer, c'est analogique, hein, c'est très analogique, mais c'est quand même ça. Dans la mesure où ma recherche qui tend vers les béatitudes, je suis fait pour les béatitudes. J'y vais pour ça. Et toute l'orientation de ma vie, c'est ça. Le jour où il n'y a plus cette hypothèse, la vie religieuse devient complètement idiote. Le jour où cette hypothèse de recherche est présente, oh, c'est magnifique, c'est la voie royale. Je ne comprends pas que tout le monde se verse pour religieux, moi. Dès qu'on comprend qu'on est fait pour la vision béatifique, quoi. Allégez-vous. Abandonnez Lot. Abandonnez tout le bétail. Abandonnez tout ça. Parce que vous êtes fait pour la vision béatifique. Et le jour où il n'y a plus cette vision d'avis, là, on ne comprend plus. On reprend Lot, on prend le bétail, on reprend tout. On retourne en arrière, on reprend tout. Parce que je ne comprends plus qu'on est fait pour la vision béatifique. Mais c'est très important de comprendre ça. Continuons. Mais c'est très intelligent, Aristote. Hein. C'est bigrement intelligent.
Oui. On peut dire aussi que le beau, c'est toujours lié à la cause matérielle. La première découverte du beau, c'est lié à la cause matérielle.
Ah oui, oui, la première. Génétiquement. C'est dans ça qu'il faut, vous voyez, parce qu'il va jusqu'à la fin. Et alors dans le pot, vous ne pouvez pas distinguer le bien apparent, le bien réel. Hein ? Vous voyez comme c'est intéressant. Donc quand vous êtes dans la phénoménologie, vous ne pouvez pas distinguer le bien apparent, le bien réel. Parce que vous êtes dans le pot. Et vous voyez, c'est très curieux, c'est du côté de la finalité que le pot sans caisse est le plus terrible. Parce que pas distinguer le bien apparent, le bien réel, quand même, c'est embêtant. Hein. C'est dans le brouillard. Vous êtes sur une autoroute, vous ne savez pas si vous êtes dans le bien apparent, le bien réel. C'est ennuyeux. C'est le pot du côté de la finalité. C'est là où c'est le plus terrible. Parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de pot du côté de la finalité. Oui.
Donc ça veut dire que si on prend qu'un critère naturel, on ne peut pas discerner le vrai bien du bien apparent. Si on prend qu'un critère... Oui,
ah, attention. Parce qu'en éthique, je suis en philosophie de la nature.
Mais si on prend qu'une philosophie de la nature...
Ah oui, alors tout à fait d'accord. Si on prend qu'une philosophie de la nature et qu'on la prolonge jusqu'au bout, on ne peut pas. Oui. Parce qu'en philosophie de la nature, il n'y a pas de dépassement de la matière. Ce qui fait comprendre comment Lénine est resté au niveau de la philosophie de la nature quand il dit qu'il y a une cause propre de l'être. Une cause matérielle propre de l'être. Que l'être ne peut pas se séparer de la matière. C'est le prolongement de la philosophie de la nature. Et au fond, la perspective de Gilson dirait qu'Aristote restait à ce niveau-là. Voilà comment ils comprennent Aristote. C'est terrible parce que c'est ça qui se redit, vous comprenez. Gilson fait autorité au point de vue thomiste. Et en faisant autorité au niveau thomiste, on ne voit pas comment Aristote dépasse le point de vue matière-forme. Distinction nature-matière-forme, c'est au niveau de ce qui est mu, pas de ce qui est. Ce qui est ousia qualité. Ça me semble capital de saisir ça. Et c'est du pur saint Thomas. Hein. Saint Thomas, commentant Aristote, dit ça à sa manière. Je vous le dis d'une autre manière, parce que je crois que c'est plus proche de nous. Mais saint Thomas, en commentant Aristote, a très bien saisi. Pas de cause propre matérielle de l'être, de ce qui est. Et Gilson répète. Vous voyez ? Il faut aimer beaucoup Gilson, mais il faut aimer plus la vérité. Selon l'espèce de tels, donc tels sont, et en tel nombre les causes. Alors ça, ta men un aisia tota, kai to sota esti to eide. Mais des modalités des causes, il en existe en nombre plusieurs. Ces modalités sont toutefois pouvant être récapitulées en quelques-unes. Donc on va retrouver une nouvelle division des causes. Nous verrons la fois prochaine.